Pas facile, les négociations entre le gouvernement et certains secteurs. Les mauvaises langues vont dire qu'on est habitué.
Ouais.
Que ça tourne en rond, que ça spinne dans la bouette. Malheureusement, c'est le cas souvent. On a vécu ça au cours des derniers mois. Que ce soit les agents au poste frontalier, là, aux douanes, que ce soit les agents correctionnels, ça va pas très bien dans ces négociations-là. Et on va parler de tout ça, là, ce qui se passe en négociation syndicale avec notre spécialiste. Il est aussi conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques et communication. C'est Marc Angers, il est au bout du fil. Comment ça va, Marc?
Hey, salut messieurs, ça va bien?
Ça va très très bien de notre bord aussi. Moi qui le, tu sais, Marc, comme un des mortels. Tu sais, je te jase de négociations de situations syndicales. Toi, tu t'y connais plus, tu baignes là-dedans depuis des années. Toi, est-ce que tu trouves que les négociations entre gouvernement et plusieurs secteurs, je veux pas dire c'est-tu nouveau, mais c'est-tu plus complexe en 2024 ou ça a toujours été de même?
Non, c'est plus complexe. La question, elle est bonne. Puis je l'ai fait longtemps. Puis justement, vendredi dernier, on m'avait demandé de préparer une conférence sur les négociations en 2024, okay. Le contexte qui est un peu exceptionnel. Puis moi, c'est un contexte que j'avais jamais vu auparavant. J'en ai déjà un peu parlé, mais un contexte de forte inflation, en même temps une situation économique qui est très, très particulière. On avait eu quand même une période de croissance économique, mais là, avec les taux d'intérêt qui se maintiennent de façon élevée, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes chez les membres. Je vous le disais, il n'y a jamais eu autant d'ententes de principe qui sont rejetées. Il y a comme un rapport de force qui est là du côté des syndicats, qui n'a pas été là depuis bien, bien longtemps. Fait que non, c'est une situation qui est vraiment exceptionnelle. Puis on l'a vu, là, il y a eu négociation avec le Front commun, les enseignants, mais il reste beaucoup de monde en négociation dont on parle beaucoup moins. Fait que c'est pour ça qu'on parle des agents de la paix et du service correctionnel du Québec. Là, c'est un groupe de 2700. Mais vous avez vu aussi, parce que pour ça, je m'étais un peu mélangé pour la chronique. Je pensais qu'on parlerait là, des agents frontaliers.
Ça brasse dans trop de secteurs et trop de domaines.
Ben oui, exactement. Parce que on le voit là au niveau des douanes, au fédéral, il risque d'y avoir une grève à compter de jeudi. Mais au Québec, les agents de la paix qui sont des établissements de détention, mm-hmm. eux aussi sont en négociation. On a vu la SAQ, donc les négociations Société des alcools du Québec, mais il y a aussi les professionnels du gouvernement du Québec, des gens de la fonction publique qui est un autre syndicat. Bref, il y a tellement de négociations en même temps que c'est ça aussi qui rend le caractère un peu exceptionnel. Puis, et c'est pas facile. Puis, j'ai rapport de force parce que regardez encore là, du côté des 9000 agents des services frontaliers qui relèvent du gouvernement fédéral, eux aussi ont tout un rapport de force. Là.
Ouais.
Ils sont 9000. Il y en a 7000 qui doivent assurer des services essentiels sur 9000, parce qu'on le sait, là, c'est l'entrée, la protection des frontières, donc c'est un service essentiel. Mais, vous le savez, puis moi, pour avoir passé aux douanes deux fois depuis le début de l'année, je veux dire, les douaniers ont la capacité, même en étant au travail, de faire en sorte, puis je ferais un peu le parallèle avec la déclaration qui avait été faite de quelques semaines par le président de l'École bleue de Québec, là, mm-hmm. qui disait, ben voici un ralentissement de travail, ce qu'il faut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Mais au niveau du fédéral, avec les agents des services frontaliers, si j'avais à faire le parallèle, eux, là, ils ont le pouvoir de poser un petit peu plus de questions aux douanes, puis Dieu sait que ça peut ralentir la fluidité
dans les aéroports. Tellement un bon point.
Annoncé, là.
Ah oui.
Ils ont annoncé qu'ils le feraient, là. Donc, ils ont un rapport de force extraordinaire. Puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est la parité salariale avec les agents de la GRC, entre autres, là. Puis un bon écart salarial. Puis ils ont des demandes au niveau du régime de retraite. Fait que moi, je m'attends à ce que ça brasse. Puis c'est pas parce qu'il y a 7000 sur 9000 qui doivent assurer les services essentiels qu'il n'y aura pas d'impact. Alors, j'ose espérer, parce que c'est déjà compliqué, si je prends Montréal, l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, mm-hmm. c'est déjà très difficile de passer aux douanes s'il fallait qu'il y ait moindrement des moyens de pression. Puis c'est assez difficile d'essayer d'établir que des douaniers ralentissent individuellement le travail, parce qu'ils ont des responsabilités importantes, et puis on peut pas leur... À un moment donné, c'est difficile de voir entre la ligne entre la grève du zèle puis dans le fond, l'exercice normal de leur fonction. Fait que ça, ça risque d'avoir... d'avoir énormément d'impact.
Hey, puis Marc, dans les, que ce soit là, aux douanes, que ce soit dans nos prisons, en général, là, c'est quoi les demandes? C'est-tu, ça part-tu tout de l'idée du manque de main-d'œuvre? C'est-tu de travailler trop? C'est-tu de ne pas avoir de conditions idéales? C'est-tu la paye? Je vois souvent passer temps supplémentaire, imposé, obligatoire. C'est-tu, ça part-tu tout avec le manque de main-d'œuvre qu'il y a dans plusieurs domaines?
Beaucoup parce qu'on est dans ce contexte-là aussi. Quand je dis un contexte exceptionnel que j'ai jamais vu depuis 2 ans, évidemment, la pénurie de main-d'œuvre en fait partie dans tous les secteurs d'activité. Mais dans le cas, si je ramène au premier sujet, donc les agents de la paix puis les agents des services correctionnels au Québec, dans les établissements de détention, ces gens-là, effectivement, il y a la notion, comme un peu en santé, de temps supplémentaire obligatoire. On voyait le président Mathieu Lavoie de ce syndicat-là, donc un groupe de 2700, qui lui disait que c'est près de 50% des membres, de ses membres, qui font du temps supplémentaire à tous les jours, parce que selon leurs prétentions, ils manquent de monde, ils n'ont pas le choix de rester. Évidemment, là, c'est comme un peu en santé, un établissement de détention, tu ne peux pas laisser les lieux vides. Donc, eux prétendent que l'attraction, elle est difficile, la rétention de personnel aussi, et que c'est un des enjeux. Et puis, le principal point d'achoppement, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Par contre, puis tu as commencé avec ça, là. Il y a une déclaration qu'il a faite qui m'a fait sursauter.
Hey, c'est spécial.
Dans le Journal de Québec, je pense, où il dit, au Québec, ça c'est Mathieu Lavoie, le président de ce syndicat-là, donc des agents de la paix et services correctionnels. Il dit, au Québec actuellement, on donne plus de services aux personnes incarcérées qu'à nos aînés en CHSLD. Clairement, le gouvernement ne met pas les priorités aux bonnes places. Je veux dire, il devrait faire un peu attention dans ses déclarations. Mmh. Je pense que, puis des fois, sous le coup de l'émotion, hein, quand on est en négociation, on s'emporte un peu, mais Dieu sait qu'il y a eu énormément de problèmes en CHSLD. Je sais pas tous les problèmes qui sont réglés encore. Puis on sait qu'il manque énormément de place avec le vieillissement de la population, tout ça. Fait que donc, ça, c'est des déclarations où il devrait faire un peu attention. Mais dans cette négociation-là, on voit fait qu'il y a un peu de différence. Souvent, ça va être évidemment le salaire. Puis ce que je parlais à ma conférence vendredi aussi, c'est que ce qu'on sent maintenant, c'est que depuis 2 ans, et c'est le cas à l'heure actuelle, c'est que les gens se disent, les employés, se disent, c'est maintenant ou jamais qu'on peut avoir des corrections plus importantes à nos conditions de travail. Et si on attend trop, la baisse des taux d'intérêt, le contrôle de l'inflation, il n'y aura plus de timing pour être capable d'aller chercher des gains à court terme. Fait qu'il n'y a jamais eu, depuis très longtemps, les astres alignés de façon si favorable pour permettre d'aller chercher davantage. Fait que si je reviens à la négociation au niveau fédéral, les agents donc frontaliers, les douaniers, on va le mettre comme ça. Là. Puis tu sais, les douaniers, là, si je vous faisais un petit quiz pour voir combien ils gagnent, là, je regardais leur convention collective, là, le salaire moyen au niveau des douaniers, là, ils ont des classifications, tu rentres à 75 000 $, tu finis à 89 000 $, mais tu as toutes sortes de catégories. Ça va même, là, dans leur emploi syndiqué, ils sont 9 000. Le dernier échelon, là, c'est de 88 500 à 100, même plus que ça. C'est de 120 600 à 135 000. Je ne sais pas qui fait ça, là. C'est probablement des gens qui ont des responsabilités. Mais il y a quand même, c'est des bonnes conditions de travail.
Ah oui.
Mais actuellement, ce qui vise ces 9 000-là, c'est la parité avec la GRC. Et entre autres...
La GRC, Marc, c'est quoi? Oui. C'est quoi les salaires de la GRC? T'es sur ta combien de pourcentage des douaniers?
Il y a un écart de 15 %.
OK, donc, quand même assez important.
Oui, c'est assez significatif. Fait qu'ils cherchent à rattraper cet écart-là de 15 %. Eux autres aussi se disent on a un bon rapport de force, c'est le temps de le faire. Mais aussi, une de leurs importantes demandes, c'est de dire que nous, on aimerait être capable d'avoir accès à notre régime de retraite, de prendre notre retraite après 25 ans sans pénalité. Ça, c'est pas mal les régimes de retraite les plus avantageux. Là, on voit ça, les policiers de la Ville de Montréal, après 25 ans, j'avais déjà dit, c'est une job qui est tough, être policier à Montréal, probablement à Québec aussi, mais je veux dire, il y a des réalités particulières.
Mais à Montréal, c'est plus particulier, oui.
Oui. Mais 25 ans, c'est quand même quelque chose, là, sans pénalité après 25 ans. Fait que, c'est une grosse demande et on verra où ça va, là. Puis j'ai toujours dit, moi, un régime de retraite, si tu es capable de continuer à travailler après, ça devrait pas être un tremplin pour un autre job. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, c'est des salaires carrière, des régimes de retraite pour ta carrière. Et il y a le danger quand tu raccourcis trop ta période de travail, mettons après 25 ans, puis que les gens vont travailler ailleurs, ton régime de retraite, tu fais mal pour les employés qui restent ici. Fait que, bref, il y a tout un débat là.
Yes. Marc, en terminant, je vais absolument te parler de la FAE. Parce que j'ai vu ce matin la présidente Mélanie Hubert sortir puis dire « coûte que coûte, moi je m'en vais contester la loi 21 à la Cour suprême. Oui, ça a coûté 1,2 million jusqu'à date, mais c'est juste 20 $ par syndiqué. » Et elle fonce malgré des lettres ouvertes et de la contestation à l'interne. Moi, je me dis, crime, comment ça n'a pas foncé de même avec l'entente qu'elle a eue avec le gouvernement?
Oui. Moi, où j'ai de la misère avec la position de la FAE pour contester la loi sur la laïcité puis l'utilisation de la clause dérogatoire, c'est qu'ils sont partis tout seuls avec le POC. Dans des contestations comme celle-là, là, normalement, c'est ça un peu un syndicat qui est indépendant. Ils décident, ah, ben, nous autres, on va aller faire cette guerre-là. Puis là, ils disent que, là, une dizaine d'années, où il y avait déjà eu l'autorisation des membres de faire ça. Je trouve que ça, c'est une histoire qui est tricotée. Là. Ça n'a pas de sens de dire ça. Je pense qu'ils auraient dû mieux consulter leurs membres. Mais surtout là où j'en ai, c'est que la loi sur la laïcité, c'est un débat de société qui a eu lieu. L'utilisation de la clause dérogatoire par le passé a bien servi le Québec objectivement sur la spécificité du Québec, hein, tout le caractère distinct du Québec. Et si tu veux aller challenger ça, parce que je lisais ces déclarations, l'utilisation de la clause dérogatoire, consulte les autres organisations syndicales. Des dossiers comme ceux-là, normalement, que ce soit toute la question des régimes de retraite dans le secteur municipal, la loi sur l'équité salariale, les syndicats, les grandes organisations syndicales se sont consultées. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? On met nos efforts ensemble, nos ressources ensemble. Un, ça coûte moins cher à l'ensemble des membres. Deux, tu as une meilleure expertise parce que tu as plusieurs joueurs à y aller. Mm-hmm. Puis c'est une décision qui est plus raisonnée. Elle est réfléchie parce que tu consultes. Là, la FAE, ce que moi, je n'accepte pas, c'est qu'ils décident tout seuls de leur côté d'aller challenger l'application de la clause dérogatoire dans un débat aussi important. Mm-hmm. Bien sûr, tu trouveras toujours des membres. Tu vas trouver le prétexte de dire il y a une portion de nos membres qu'on doit défendre. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un débat plus large. Ils auraient dû, Mélanie Hubert, comme présidente, aurait dû appeler les autres organisations syndicales, dire voici ce qu'on pense faire, qu'est-ce que vous en pensez, mesurer les impacts de ça, pas partir tout seul avec le POC. Fait que moi, je considère pour ça, c'est une mauvaise approche, c'est pas une bonne décision qu'ils ont prise, puis je comprends que ça questionne. Après ça, le reste, là, chacun des syndicats a la capacité de dire est-ce que je conteste ou je conteste pas, comment je fais ça. Mais ça avait une portée plus large, beaucoup plus d'impact, et ça aurait demandé le sens du devoir des responsabilités de consulter les autres organisations syndicales. Ça aurait coûté moins cher aux membres de la FAE, puis peut-être les autres organisations auraient dit pas maintenant, on y va pas maintenant, pas sur la loi sur la laïcité. On verra si le gouvernement utilise la clause dérogatoire en négociation. Là, ça touchera vraiment nos membres. Là où je comprends, je suis un peu long, je m'excuse dans ma réponse.
C'est correct, Marc. Vas-y, mon Marc, j'adore ton envolé.
Mais je comprends que la FAE, dans les membres qui sont touchés par les contraintes de la loi 21, sur l'île de Montréal, bien sûr, ils ont une portion de membres plus importante qu'ailleurs qui sont issus de la diversité. Ça, je comprends. Mais encore là, pour la très forte majorité, considérant que c'est un débat de société, ce n'est pas une décision qui pouvait se prendre en vase clos, et c'est pour ça que je dis que je comprends que les membres posent des questions. Ça devait se faire en concertation beaucoup plus large, parce que la responsabilité incombe à davantage. Imaginez qu'on ait une décision de la Cour suprême qui vienne challenger l'application de la clause dérogatoire at large, pas juste sur la défense des membres qui ont été lésés, une certaine portion des membres lésés dans leur cas à eux autres, là, ça va avoir un impact pour l'ensemble de la société québécoise, et c'est pour ça que je considère que c'est pas acceptable comme décision, puis que minimalement, il aurait dû prendre le téléphone puis demander l'opinion de leurs autres collègues. Mais parfois, puis là, je vais être sévère, parfois, on veut tellement se distinguer des autres qu'on ne rend pas de compte à personne.
Ouais.
Ben, moi, pour moi, ce n'est pas le propre de une responsabilité syndicale que de faire ça.
Comme toujours, tellement très intéressant, Marc Rangy, il est conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques et communications, notre spécialiste en situation et négociation syndicale. Marc, toujours un plaisir. Merci infiniment pour ton temps.
Un grand plaisir, puis j'ai été un peu laborieux au début dans mes explications. Là, je m'excuse.
Mais non, ouais, on n'a pas à t'excuser du tout. À bientôt, Marc.
Okay. Salut, les gars.
Salut, Marc Rangé, toujours aussi intéressant.
Ben, il s'excuse.
Ben non, c'est ça.
Il s'excuse d'être pertinent.
Puis d'être bon.
C'est le fun.
Ben, puis de connaître les dossiers.
C'est ça.
Marc Rangé, mesdames, messieurs. Courte pause, on revient tout de suite après. J'ai une invitation. Ça a tellement été populaire hier que Dalive veut me parler de Papa Roach à la scène Le Bourgneuf, puis Denis passe nous voir en studio.
Ouais.
On fait tout ça. À Rage Against le matin, bougez pas. Rage.